spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques. Mon oncle, l'infâme bricoleur, faisait...
Bonjour, vous êtes sur Atomic Mac, l'émission de sortir du nucléaire, Dromardèche. Aujourd'hui, nous rencontrons Roger Mathieu de la centrale villageoise Gervanne-Rail. Il va nous en parler, on va voir un peu ce qui se passe dans ce beau village de Beaufort-sur-Gervanne. Et puis avant cela, Georges, notre billettiste fukushimiste, va pouvoir nous faire déjà son petit point sur les nouvelles de Fukushima.
Oui, bonjour chères auditrices et auditeurs. Tout d'abord, pour méditer, ce petit texte de Kitahara Akuya, élève de 15 ans habitant en Fukushima. C'est un texte qui date quand même de 2011, mais il est quand même intéressant. Il dit « Mon rêve est de travailler comme mon père que j'estime. Il est employé dans la centrale numéro 1 de Fukushima. Je veux l'imiter. La centrale, maintenant stable, ce que je crois, a connu divers problèmes. Elle est dans cet état grâce à de nombreux travailleurs dévoués qui veulent sauver leur région et leur ville. » Je désire payer ma dette envers eux, en étant moi-même plus tard un bon travailleur. C'est mon but pour que tous puissent vivre tranquillement dans leur foyer, comme avant. Voilà, je vous laisse méditer. Ensuite, le combat d'un travailleur de 62 ans, employé 27 ans dans plusieurs centrales, dont Takahama, pour sa reconnaissance comme accidenté du travail. Il a été exposé dans des endroits très radioactifs, où il n'est pas possible de rester plus de 15 minutes. En juillet 2011, une tumeur lymphatique maligne est découverte. Il a reçu 160,41 millisieverts en 27 ans d'activité. Le bureau du travail de Yogo lui a refusé une aide car il faut un minimum de 200 millisieverts en 5 ans d'exposition. En décembre 2012, après un deuxième passage devant ce bureau, assisté d'un conseil, il est enfin reconnu malade victime de la radioactivité. Le gouvernement doit reconnaître plus largement la qualité de victime d'accident du travail, car les travailleurs des centrales, pour éviter d'être licenciés, ne déclarent pas leur temps exact d'exposition aux radiations ionisantes et les maladies dues à la radioactivité n'ont pas encore été clairement explorées. C'est tiré du journal Akahata du 25 mars 2011. Ensuite, les dernières infos. Les habitants du district de Miyakoji, à 20 km de la centrale, doivent rentrer chez eux, bien qu'en de nombreux endroits, la dose d'exposition grand public de 1 millisievert par an est dépassée. Cela permet de limiter les frais de décontamination et d'arrêter les compensations financières, malgré l'opposition des habitants qui craignent pour leur santé. Par contre, des centaines de milliers de personnes continuent à vivre dans des villes ou des villages où le niveau de radioactivité ambiant justifierait pourtant l'évacuation. En effet, des décontaminations bâclées, à savoir des tas de terres abandonnées, des maisons passées au karcher, etc., induisent les habitants à se voiler la face ou à mesurer chaque objet ou aliment. Les enfants, dosimètres obligatoires portés en permanence, paient le prix fort en apparition de nodules et kystes, trop nombreux pour être comptés, sur la thyroïde. Plus de 30 cas cancéreux en fin 2013. Enfin, des drames humains s'ajoutent à cette contamination. De nombreuses familles sont séparées, les mères ayant préféré déménager pour protéger les enfants, tandis que leur mari souhaitait rester sur place.
Merci Georges pour ce billet, notre billet mensuel sur Fukushima, ce qui fait penser quand même que ça fait maintenant plus de 2 ans qu'on fait ce billet, et on essaiera un jour de tous les publier les uns derrière les autres pour voir l'évolution depuis 2 ans de la situation. Et Georges, j'espère que tu continueras à nous maintenir cette information nécessaire. Je rappelle aussi que sur Fukushima, j'en profite, on a encore 2 petites secondes, pour reparler du bouquin de Michael Ferrier qui s'appelle Fukushima, sorti en livre de poche, qui est un très beau roman sur ce qui s'est passé, à la fois le tremblement de terre, le tsunami et le désastre nucléaire dans cette très belle région qui a, pour beaucoup d'aspects, ressemble beaucoup à la Drôme. C'est une région montagneuse très belle, très riche et qui est aujourd'hui totalement détruite. Voilà, et bien, l'autre billet, c'est moi qui vais le faire aujourd'hui, et tout le monde se souvient que en janvier 2012, un premier rapport de la Cour des comptes sur les coûts du nucléaire avait enfin mis à mal le mythe du nucléaire bon marché. Le 27 mai 2014, il y a donc 2-3 jours, à la demande de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur le coût du nucléaire, la Cour des comptes a sorti un nouveau rapport qui prouve une nouvelle fois que le coût de production de l'électricité nucléaire s'envole. Petite parenthèse, dans cette commission parlementaire n'étaient présents que deux partis, des élus du Parti Socialiste et d'Europe Écologie Les Verts. Tous les autres partis de droite, officiellement, ont refusé de participer à cette commission. Et les élus du Front Gauche PCF n'y ont pas non plus participé. Alors que dit ce rapport ? Entre 2010 et 2013, la facture a connu une forte hausse, passant de 49,6 euros par mégawatt-heure à 59,8 euros par mégawatt-heure, soit 10,3 euros de plus en 3 ans, soit encore une fois une augmentation de 20,6% qui ne devrait pas manquer de venir impacter le tarif de vente de l'électricité, comme le souligne à juste titre le Parisien Libéré du 27 mai. Toutes les composantes des charges d'exploitation sont responsables de cette envolée des prix de l'énergie électrique nucléaire. Toutefois, la Cour des comptes souligne que la raison principale réside dans le choix d'EDF et des différents gouvernements de prolonger la durée d'exploitation des réacteurs au-delà de 30 ans, puis, dans quelques années, au-delà de 40 ans, voire plus. En effet, le montant des investissements à prévoir pour prolonger la durée d'exploitation des réacteurs s'avère, au final, considérable. Que dit exactement le rapport ? Je le cite, « Le prolongement de la durée de fonctionnement nécessite une augmentation des dépenses d'achat et de logistique, ainsi qu'une forte évolution des effectifs. Il explique en partie cette forte évolution des coûts d'exploitation, notamment sur les dernières années. » Comme ce que souligne ce rapport, donc, qui stipule en outre que dans le cas de la prolongation de la durée d'exploitation jusqu'à 50 ans, le courant économique CCE, comme on le dit, entre 2011 et 2025, serait environ de 62 euros le mégawatt-heure. Autre facteur d'augmentation, la gestion des combustibles usés, 16,3 milliards d'euros fin 2013. Les charges de démantèlement, 34,4 milliards en 2013. Qui font craindre des surcoûts pour les opérations à venir, puisque le démantèlement, on commence seulement maintenant. Ainsi que les charges de gestion des déchets, 31,8 milliards en 2013, auxquels on peut ajouter les 8,5 milliards de l'EPR de Flamanville. Ce qui fait dire au réseau sortir du nucléaire qu'il est donc inéluctable que le coût de l'électricité nucléaire explose au prix d'une augmentation de la facture pour les consommateurs, bien sûr, et des conditions de travail inacceptables pour les intervenants. Il est toutefois regrettable que la Cour des comptes se soit interdit d'enquêter sur une comparaison des coûts entre le nucléaire et les énergies renouvelables. Cette comparaison aurait pu se révéler fort instructive. Ce rapport montre que le nucléaire a des coûts de production qui vont croissant, mais d'autres sources de production d'électricité sont en mesure de passer sous la barre du nucléaire. L'éolien terrestre est passé désormais à sous les 70 euros le mégawatt-heure. Le gaz naturel oscille à quelques euros de plus, autour de 74 euros. Et seul le solaire demeure une ressource abondante, mais encore très chère, entre 236 et 406 euros le mégawatt-heure. Mais son prix chute chaque année, très rapidement. Le prix des panneaux est en diminution, moins 10% tous les trimestres. Selon l'European Photovoltaic Industry Association, EPIA, en 2020, le coût de production de l'énergie solaire sera compris entre 80 et 180 euros par mégawatt-heure, alors que celui du nucléaire aura, lui, continué très largement à augmenter. Ainsi s'effondre le dernier argument des partisans du nucléaire au nom de la juste lutte contre la précarité énergétique. Le PCF, la CGT, Force ouvrière, Lutte ouvrière, etc. L'énergie électrique nucléaire devient chaque année de plus en plus onéreuse, alors que l'accident nucléaire majeur dans les centrales vieillissantes devient, lui, de plus en plus probable. Il est donc grand temps, comme le préconise Sortir du nucléaire Dromardèche, d'en finir le plus rapidement possible, au moins en moins de 10 ans, avec le nucléaire. Parole à la chanson, Jean.
Laissons les billes alizées au voilier, au petit drapeau de plage coloré. Mistral chasseur de nuages, laissons-les souffler dans le ciel bleuté de l'été. Laissons les brises caresser les mollets de coques, les jolies gambettes faire forger des filles ou des girouettes au perché. Laissons les courants d'air frais circuler. Laissons tout le vent enfermé au fond de nos postes de télé s'évader. Toute l'énergie éolienne que nos existences contiennent à s'envoler. Laissons tout le vent enfermé au fond de nos postes de télé s'évader. Toute l'énergie éolienne que nos deux existences qu'on tienne s'envoler. Simple va-et-vient, odyssée traversée, le long des falaises et sillonnées. Vouloir les avant, les que sais-je, les après, souffler dans le ciel bleuté de l'été. Laissons la bise caresser les mollets, de coques les jolies gambettes de fer forgé, des filles ou des girouettes au perché. Laissons les courants d'air frais circuler. Laissons tout le vent enfermé au fond de nos postes de télé s'évader. Toute l'énergie éolienne que nos existences contiennent à s'envoler. Laissons tout le vent enfermé au fond de nos postes de télé s'évader. Toute l'énergie éolienne que nos existences contiennent à s'envoler. Que nos existences contiennent s'envoler. Laissons tout le vent enfermé. Laissons tout le vent enfermé au fond de nos postes de télé s'évader. Au fond de nos postes de télé s'évader. Toute l'énergie éolienne que nos existences contiennent à s'envoler. Laissons tout le vent enfermé au fond de nos postes de télé s'évader. Toute l'énergie éolienne que nos existences contiennent à s'envoler.
Nous sommes toujours sur Atomic Mac et nous sommes en présence de Roger Mathieu, membre du conseil de gestion de la SAS Centrale Villageoise Gervan Rail. Bon, SAS, il va nous expliquer ce que c'est. Bonjour Roger.
Bonjour.
Alors si nous avons décidé d'interviewer un membre de cette SAS, Centrale Villageoise, c'est parce que... On sait très bien qu'une des réponses qui est faite au nucléaire, aux centrales, etc., c'est de dire si on arrête le nucléaire, on va se chauffer à la bougie, on va s'éclairer à la bougie. Et en fait, plein de projets existent, tout à fait viables, enfin j'espère que vous allez nous le prouver, de projets locaux existent aujourd'hui de production d'électricité de façon alternative. Et en plus, là, ça se passe dans un village de la Drôme, tout près d'ici, à Beaufort-sur-Gervan. Donc c'est déjà un petit peu, c'était notre première raison de vous avoir invité. Alors Roger, d'abord... Une petite explication rapide sur ce projet, puis peut-être après on verra comment il est né. Quel est l'objectif de cette centrale villageoise Gervan Rail?
Donc ça concerne la vallée de la Gervan, ça ne concerne pas que Beaufort-sur-Gervan.
Que Beaufort.
C'est une opération pilote qui a été lancée par le conseil régional, entre autres, et les parcs naturels régionaux. Et l'objectif, c'est de produire de l'électricité localement sur des toits et non pas dans le milieu naturel ou sur des terres agricoles. Et faire ça, non pas par des professionnels, mais par des gens locaux qui habitent sur place, qui investissent sur place et donc qui créent une richesse locale dans une vallée. Voilà, c'est ça l'objectif. Ce n'est pas de produire de l'électricité à tout prix, voilà, c'est de travailler avec les gens du coin, quoi.
Donc on imagine qu'au départ, c'est pour alimenter en électricité Beaufort ou les villages environnants, mais pas pour gagner de l'argent, vendre de l'électricité absolument, mais c'est pour produire et être utilisé localement, quoi.
Voilà, c'est l'équilibre budgétaire doit être réalisé, bien sûr. Il ne s'agit pas de travailler, de faire ça pour perdre de l'argent, mais plutôt pour en gagner. Mais c'est pas, évidemment, vous l'avez compris, ce ne sont pas des placements à risque. Donc ça ne va pas rapporter 20 ou 25% à l'an, c'est pas possible. Et voilà, c'est de produire de l'électricité localement, sur des toits. Donc ça c'est important, c'est des propriétaires qui nous louent sur 20 ans, pour 20 ans, leur toit pour installer les panneaux photovoltaïques. Il y a une éthique là derrière, je l'ai dit tout à l'heure, et une des éthiques aussi, c'est, enfin des problèmes éthiques, c'est où on achète ces panneaux. Ces panneaux sont tous des panneaux français. Voilà, donc c'est pas extraordinaire comme éthique, mais quand même, on y tient.
Le transport des panneaux entre la Chine et la France, c'est déjà une belle économie de ce point de vue-là, au moins énergétique.
Tout à fait.
D'accord. Et donc là, les gens vont installer les panneaux chez eux, c'est constitué cette centrale villageoise. Vos accords, c'est vous qui allez distribuer directement l'électricité ou ça passe par EDF ou...
EDF, c'est obligatoire en France. Donc une SAS, c'est une société par action simplifiée. Alors bon, ça ne dit rien à personne. Rassurez-vous, moi ça ne me disait rien il y a encore un an. En fait, c'est des gens qui investissent, qui placent leur argent là-dedans. Mais je répète,
oui, c'est une petite somme.
Voilà, il y a d'autres endroits si vous voulez gagner beaucoup d'argent, avec beaucoup de risques d'ailleurs. Alors que là, il n'y a pas de risque. Les contrats sont signés avec EDF, donc le prix du courant est pour le projet qui est en cours, qui concerne 7 toitures, à peu près 400 mètres carrés de toiture, sur les villages de Plans de Baie et de Gigor et Lozeron, et ça va produire de l'électricité pour une vingtaine de familles, voilà. Donc, je ne sais plus ce que j'étais en train de vous dire juste avant. J'ai un petit peu
digressé. On disait un petit peu sur la rentabilité du projet.
Voilà, il faut que ça soit rentable.
Voilà, il faut que ce soit rentable. Mais l'objectif, ce n'est pas de faire de l'argent.
Non.
C'est plutôt d'offrir une autre alternative, si j'ai bien compris, aux gens du coin d'abord.
Voilà, et de créer une richesse locale. Parce que l'objectif aussi, c'est de réinvestir les bénéfices dans d'autres projets de la vallée de la Gervanne et du parc naturel régional du Vercors.
Alors, tu l'as dit, c'est une initiative du conseil régional et du parc, mais localement, parce qu'il y a plein de villages aussi qui n'ont pas cette même démarche. Donc comment ça s'est constitué localement, ce regroupement de personnes? C'est un individu qui a dit ce serait bien de faire ça, ou ça a été l'objet de discussions assez longues? Comment s'est montée à peu près cette SAS et cette centrale localement?
Donc l'initiative est partie du conseil régional, mais il faut savoir qu'il y a des financements aussi de l'Europe, il y a des financements du conseil général, de la Drôme, pour ce qui est de notre projet. Et donc l'initiative est partie du conseil régional, parce que je répète, c'est l'objectif, c'est de créer des modèles qui pourront être reproductibles ailleurs. C'est ça le. Et quand je dis que il y a eu du financement de l'Europe, de la région, du parc, etc., c'est du financement pour mettre en place le projet. C'est pas du financement pour acheter des panneaux, pour les installer, pour payer les entreprises. On va faire aussi travailler des entreprises locales, évidemment. Okay. D'ailleurs, les appels d'offres sont partis. Et en principe, on va examiner les retours dans le courant du mois de juin. Donc, le projet est déjà bien avancé aussi.
Appel d'offres d'installation donc sur les toits, d'achat de construction des panneaux, etc. Quoi.
Voilà, l'appel d'offres pour installer ces panneaux sur les toits. Il y a donc 7 maisons qui sont concernés. C'est un petit projet pour l'instant, hein. Mais nous, on pense qu'il y a beaucoup de gens qui pour l'instant sont prêts à investir, mais qui observent, et c'est tout à fait normal. Et je pense que lorsqu'on aura installé les premiers panneaux, les gens vont prendre confiance. Et je répète, il s'agit pas, c'est pas une opération philanthropique. Il faut que les gens s'y retrouvent à la sortie.
Ouais, l'objectif, donc, bien sûr, faire de l'électricité, c'est aussi, manifestement, aussi un objectif, je dirais, social, c'est-à-dire faire en sorte que la population participe au projet, le contrôle, etc. Quoi. Ça fait combien de temps, là, vous êtes lancé sur le projet ?
2012.
2012, on est en 2014, donc il a fallu 2 ans à peu près pour monter ce dossier de façon pratique. Quoi.
Voilà, le conseil de gestion, 12 personnes. La quasi-totalité habite la vallée. Nous ne sommes absolument pas des professionnels, nous sommes des bénévoles dans cette histoire. Et ça s'est fait comment au début? Ben, c'est tout simplement la région qui a nommé Rhône-Alpes Énergie, qui est une émanation de la région Rhône-Alpes. Et pour rassembler des gens, il y a eu des réunions publiques. Et puis petit à petit, le conseil de gestion s'est monté. On a appelé les gens à prendre des actions dans cette opération, et actuellement on a une cinquantaine d'actionnaires. Ce qui est important aussi à dire, c'est que la communauté de communes du Val-de-Drôme, CCVD, bref, et qui comprend, je ne sais plus, 70 ou 80 communes dans la vallée, a investi aussi dans le projet. Attention, elle a fait un prêt. Et le système français, on est toujours les meilleurs, mais en matière de transition énergétique, on est sûrement les plus mauvais. Et par exemple, les communes ne peuvent pas, les communautés de communes ou les communes ne peuvent pas investir directement dans ce projet. Donc ils sont obligés de faire un petit bricolage. Ils sont montés une société d'économie mixte. La CCVD, la communauté de communes du Val-de-Drôme, a monté une société d'économie mixte qui lui a permis de nous prêter de l'argent. Je crois sur 5 ans, 20 000 euros sur 5 ans. Voilà. Et nous, on va faire un prêt auprès des banques. Notre prêt ne dépassera pas 150 000 euros et avec les actionnaires, nous avons à peu près bouclé notre projet puisque nous avons lancé les appels d'offres.
Si je comprends bien, il y a quand même des difficultés, je dirais, pratiques dans le système français aujourd'hui pour pouvoir développer ce genre d'initiative. Parce qu'en Allemagne, par exemple, en Autriche, une communauté de communes ou une commune peut lancer un projet comme ça sans grande difficulté. Là, ça semble être quand même un peu plus complexe.
C'est pas un peu plus complexe, c'est très complexe. Tout se passe comme si on ne voulait pas en France. Donc, en fait, c'est les parlementaires français, tout simplement, hein, ça, faut pas aller chercher très loin. Ils parlent beaucoup de transition énergétique et quand on monte ce genre de projet, on voit que c'est en fait une compétition de sauts d'obstacles. Et il faut passer les obstacles les uns après les autres.
Les obstacles, ça va, voilà.
Par exemple, le RDF, qui est chargé normalement de nous aider, accompagner pour transporter le courant, pour le récupérer et le transporter. Manifestement, ça n'engage que moi, mais pour siéger dans le conseil de gestion, on a l'impression que ça ne les passionne pas, quoi. Hein.
Alors, on va revenir sur ce problème d'EDF, RDF, juste après la chanson, notre petit intermède. Vous êtes toujours sur Atomic Mac, l'émission de sortir du nucléaire dans l'Ardèche. Nous sommes avec Roger Mathieu. On était en train de parler du projet de centrale villageoise germane, RAI. Le projet est déjà largement engagé, hein, puisque ça fait 2 ans que le projet initié par le conseil régional, les communautés de communes, etc., et le parc est en cours. On est quasiment à la réalisation maintenant, la mise en application. Je rappelle, ce qui a été dit par Roger tout à l'heure, pour l'instant, à peu près une douzaine de familles pourraient être équipées,
bénéficier
de cette production d'énergie, mais sa vocation allait au-delà au départ. Alors les problèmes, justement, on disait d'installation, enfin par rapport à l'administration, quoi. On a vu des montages assez compliqués, etc., à faire avec les communautés de communes. Les problèmes avec EDF aussi.
Oui, on n'a pas senti un enthousiasme débordant de ERDF Drôme concernant ce type de projet. Évidemment, je suppose qu'ils préfèrent accorder un industriel qui va installer sur 20 hectares des centaines et des centaines de panneaux photovoltaïques plutôt que de travailler sur des villages. Voilà, mais bon, voilà, mais il faut pas tenir deux discours, quoi. Dire qu'on va favoriser la transition énergétique d'un côté, ça c'est le discours des politiques, et de l'autre côté, l'administration qui traîne énormément des pieds, voilà, bref.
Oui, on n'est pas favorable aux micro-projets.
Petits projets, ça les intéresse pas. Ça n'a jamais intéressé, d'ailleurs, EDF ou RDF, d'ailleurs. Enfin, RDF existe depuis pas très, 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 très longtemps. Et ils préfèrent investir dans les centrales nucléaires, évidemment, ou dans des énormes centrales, qu'elles soient photovoltaïques, d'ailleurs, ou des parcs éoliens où il y a une trentaine d'éoliennes qui produisent des... Bref. Beaucoup, beaucoup d'électricité. Bref, voilà. Mais ce type de projet citoyen éthique... Ça ne les intéresse pas énormément. Contrairement à ce qui se passe dans beaucoup d'autres pays européens, on cite toujours l'Allemagne, mais c'est vrai que c'est...
Il y a l'Autriche, il y a l'Italie aussi, hein, maintenant.
L'Italie s'y met, oui. Voilà, donc il faudrait quand même qu'on fluidifie tout ça et qu'on ne casse pas les pieds. On parle sans arrêt de simplification. Notre président de la République en parle sans arrêt. Et ben nous, on aimerait bien qu'on simplifie les procédures pour installer du photovoltaïque, je répète, éthique, évidemment pas des énormes centrales photovoltaïques.
Oui, parce qu'en fait, si on regarde bien, l'idée de ce genre de projet, c'est pas seulement de se faire plaisir dans un petit village, c'est de dire qu'au lieu de construire une grosse centrale, qu'elle soit nucléaire ou même solaire, etc., avec ensuite une quantité de fils électriques, de lignes à haute tension et tout ça, ce serait plutôt, notamment dans des régions comme les nôtres, de petits villages, de faire que des villages puissent s'alimenter eux-mêmes en électricité, avec leurs propres moyens, soleil, vent, etc., quoi.
Produire de la richesse. Alors, c'est pas une richesse phénoménale, bien mais vous savez, on s'aperçoit de plus en plus que les grandes richesses que l'on acquiert facilement, un jour ou l'autre, ça plonge, et ça plonge profondément. Et bon, je ne rappellerai pas tout ce qui s'est passé aux États-Unis ces dernières années, et c'est carrément catastrophique. Alors, il y en a qui s'en mettent effectivement plein les poches, qui se gavent, mais la plupart des gens, quand ils en reviennent, et souvent ils en souffrent énormément ensuite.
Voilà. Alors là, vous en êtes quasiment, bon, le projet est bien avancé, vous allez attaquer la réalisation pratique, quoi. Des appels d'offres sont déjà lancés pour les panneaux solaires, installer les panneaux solaires pour les installateurs aussi, c'est-à-dire l'emploi, y compris local, quoi.
Ah oui, on va essayer. Évidemment, on ne va pas faire venir des Polonais ou des Chinois pour nous installer ça. On va faire travailler les entreprises locales. On a fait un appel d'offres, donc voilà, les entreprises répondent, sont en train de répondre, et on examinera tout ça dans le courant du mois de juin.
Et ça va toucher donc le village de Beaufort, bien
non,
sûr.
Non, le Beaufort, pour l'instant, n'est pas concerné.
D'accord.
On concernait uniquement les communes de Plantebaie, Gigorée et Lauzeron.
D'accord.
Donc il y a 7 projets, ça représente la consommation, je l'ai dit tout à l'heure, d'une vingtaine de familles de consommation électrique, ce qu'on va produire. Et voilà, donc on cherche des gens qui veulent investir en achetant des actions, c'est 100 euros l'action, et on cherche aussi sur la vallée des gens qui veulent louer leur toit pour 20 ans, en sachant que nous, on prend en charge tout ce qui est assurance et tout ça.
Ce projet de location de toit, parce que là, bon, bah justement, Plantebaie, ce sont des maisons assez isolées, c'est un tout petit village, Plantebaie. Beaufort, ça commence à être déjà un village en plus historique. Est-ce que se pose la question, est-ce que ça s'est discuté, par exemple, sur Beaufort, de mettre des panneaux solaires sur des toitures qu'on a plutôt habitude de voir avec des tuiles du pays?
Alors, on travaille avec des architectes et on fait très attention à l'intégration du photovoltaïque. Ceci dit, le monde bouge, le monde avance, le monde change. Je crois que tout le monde s'en rend compte, et même change, bouge, etc. très vite. Et voilà, il faut aussi s'adapter. Et puis très entre nous, il ne s'agit pas de faire évidemment n'importe quoi, mais vous savez, la beauté des toitures, il y avait du chaume autrefois, on est passé aux tuiles. Je suppose que ceux qui ont vu arriver les tuiles romaines ont dû se dire, mais qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que c'est affreux, nous on a du chaume, c'est bien plus joli. Enfin bref, tout ça c'est quand même très subjectif quand même, et puis je répète, on est pris à la gorge là, il va falloir qu'on avance.
Donc un projet qui avance, et alors vous êtes bon, un petit groupe local pour l'instant, qu'est-ce que vous faites là pour développer un petit peu bah, on va dire la propagande, pour faire connaître votre projet, le faire connaître ailleurs, etc. J'ai vu que vous aviez sorti
une petite plaquette
voilà, vos autres moyens de communication un petit peu sur le projet.
Eh bien j'invite tous les gens qui sont intéressés par ce projet et qui habitent la région, le 12 juin, c'est un jeudi à 20h30 au cinéma L'Éden à Cray, on va faire une petite soirée sur la transition énergétique. On travaille avec le collectif Transition du Val-de-Drôme. Et on va expliquer notre projet, on parlera d'autres projets, et voilà, et on répondra à toutes les questions pour les gens qui sont intéressés. Il y a aussi un site internet, c'est Centrale Villageoise tout au pluriel. www.centralevillageoise.com, et vous aurez plein de réponses à tout un tas de questions là-dessus. Et puis je vais vous donner quand même un numéro de téléphone aussi, prenez un crayon papier, donc 06 07 34 71 99, je répète, 06 07 34 71 99, vous pouvez téléphoner et on pourra aussi répondre à vos questions.
Alors tout sera, on le rappellera tout à l'heure nous-mêmes, ce sera sur notre site de la radio, et puis on enverra également sur votre site. Une question encore quand même, parce que le principe là est donc de vendre à EDF pour l'instant cette énergie. On sait très bien que il y a eu une baisse des coûts de rachat d'EDF dernièrement là, puisque ça devient de moins en moins intéressant pour des particuliers, y compris d'installer des cellules photovoltaïques. Est-ce que vous êtes couvert par rapport à ça, parce qu'un gouvernement pourrait très bien décider demain de cesser cette pratique de rachat, rien n'est garanti. Est-ce que vous, votre projet est garanti par quelque chose pour faire face à un changement de politique d'EDF, par exemple, ou du gouvernement?
Alors, pour les appels d'offres, et sur 20 ans, le projet est bouclé, l'EDF s'est engagé, il ne pourra jamais revenir en arrière. Donc là, les prix sont fixés, pour 20 ans, ça ne bougera pas. C'est pour ça qu'on peut expliquer aux gens voilà, ce que ça va coûter, combien ça va rapporter, sur combien de temps, etc. etc. Ensuite, c'est la politique du gouvernement, personne ne peut le prévoir. Donc ce projet-là qui démarre 400 mètres carrés, c'est bouclé, fini. Ils ne pourront pas revenir en arrière sur le prix. Mais les projets à venir, alors là, mais qu'on ne nous parle pas de transition énergétique, je vous en prie. Voilà, il faut être logique, quoi.
Oui, l'appel qu'on pourrait lancer à partir de vous, c'est de dire à plein de villages aujourd'hui, mais lancez-vous aussi maintenant, quoi. C'est-à-dire, plus il y aura de villages ou de petites communes qui se lanceront dans un tel projet, plus la pression sera faite sur les gouvernements pour que ces projets vivent et perdurent, quoi.
Mais de toute façon, je suis, à titre personnel, vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, vous aussi, je suis persuadé, vu que le monde, comment il évolue, que le prix du nucléaire, du courant, va continuer sans arrêt à monter,
c'est
évident. Toutes les autres énergies, le prix de rachat et tout ça, va continuer à baisser. Alors il y aura des à-coups, il y aura des gens qui vont s'énerver, il y aura EDF qui va dire c'est plus possible, le photovoltaïque, et bon, les gros industriels préfèrent sûrement les grands parcs éoliens à ce type de projet, donc ça freine des cas de fer. Bref, c'est ça qu'on appelle de la politique. Et on espère que les citoyens un jour vont renverser la vapeur et dire bon, si vous voulez faire de la transition énergétique, eh ben, il faut la faire. Mais il faut la faire, il ne faut pas en parler sans arrêt, il faut la faire.
Ben voilà, ben écoutez, dans la Drôme, on a eu un village qui dernièrement aux élections s'est permis de tout bousculer, de faire une gestion communautaire, commune, et non pas d'avoir quelques élus, c'était saillant. On a la vallée de la Gervanne qui est tout à côté d'ailleurs, hein, qui est de l'autre côté de la montagne, ça se touche, qui est en train de nous produire un beau projet nucléaire, enfin anti-nucléaire on va dire à la limite, ou alternatif au nucléaire. On voit que dans la Drôme il se passe plein de choses intéressantes. La chose qu'on peut faire, c'est en gros, c'est tous les villages, tous ceux qui sont intéressés, ben, qui contacte votre association et puis voir à ce qu'on multiplie encore une fois ce genre de...
Il y a 8 projets dans la région Rhône-Alpes, ça touche 8 régions, 8 parcs nationaux, et dans la Drôme je sais qu'il y a le futur parc des Baronnies
qui en parle, mais il n'y a pas de projet encore, ils
commencent à en parler énormément. Dans l'Ardèche, vous avez le parc de l'Ardèche, parc naturel régional des Monts d'Ardèche, qui a un projet. Bref, les choses avancent doucement, mais ça avance.
Eh ben écoute, Roger, je te remercie beaucoup. Toutes nos salutations à la population de la Gervanne, en espérant que, comme je parlais tout à l'heure de ce village, très beau village de montagne autour de Fukushima, qui était une petite perle, un peu comme Beaufort-sur-Gervanne, qui sont des villages merveilleux, et qui, suite à un accident nucléaire, sont condamnés pour des millions d'années. C'est-à-dire qu'on n'y mettra plus jamais les pieds. Ben, j'espère qu'on continuera à mettre les pieds à Beaufort grâce à une énergie alternative. Merci,
merci
Roger.
Merci.
Et maintenant, eh bien, on a parlé d'intox du nucléaire tout à l'heure, de désintox local et notre billet intox désintox. Alors là, c'est la quatrième génération de réacteurs, si j'ai bien compris.
Voilà.
Vas-y, Jeanne.
Donc l'intox désintox de cette émission concerne un projet dont vous n'avez probablement pas entendu parler. Mais l'intox est là, déjà présente sur le site du CEA, Commissariat à l'énergie atomique. Et comme les médias ont pour habitude de reprendre en cœur l'information des autorités nucléaires, autant vous donner immédiatement les éléments de controverse. Astrid. Non, messieurs, ne rêvez pas, je ne change pas de sujet. C'est bien le nom du prototype d'un soi-disant nouveau modèle de réacteur à neutrons rapides au sodium. Ce réacteur, dit de quatrième génération, est présenté par le commissariat à l'énergie atomique comme une rupture technologique avec tout ce qui s'est fait jusqu'alors. Ce n'est pourtant qu'une version modifiée de Superphénix, le surgénérateur fermé en 1997 après une douzaine d'années d'activité réduite pour cause de panne multiple. Technologie miracle. Que dit le CEA ? Cette technologie futuriste devra pouvoir tirer de la ressource disponible 100 fois plus d'énergie que ne le font les réacteurs du parc nucléaire français. Ce réacteur pourra convertir en énergie jusqu'à plus de 80% de l'uranium naturel, tout en utilisant comme matière première les énormes stocks d'uranium-238 constitués par l'exploitation du parc EDF durant des décennies, ainsi que le plutonium contenu dans les combustibles usés. Monsieur Christophe Béard, directeur de la Direction de l'énergie nucléaire, nous assure qu'Astrid permettrait de diminuer les déchets radioactifs à vie longue grâce à la transmutation des actinides mineurs, refrain déjà lu dans les documents d'information d'EDF destinés au public en 1975. La réalité de cette technologie miracle, c'est que c'est une technologie à haut risque. En premier lieu, parce que le plutonium, combustible utilisé et produit dans ce réacteur, est une matière d'une extrême toxicité dont il suffit d'inhaler un microgramme pour développer un cancer mortel du poumon. De plus, le plutonium est bien plus prompt que l'uranium à déclencher des réactions en chaîne incontrôlées et donc des catastrophes nucléaires. En second lieu, le réacteur Astrid utilisera le sodium comme fluide caloporteur. Or, le sodium s'enflamme au contact de l'air et explose au contact de l'eau. Ce rêve de l'énergie à l'infini, poursuivi depuis l'origine par les nucléocrates, ne ressemble-t-il pas plutôt à un cauchemar ? Oui, si on lit le rapport sur la transmutation remis par Roger Dautré, haut commissaire à l'énergie atomique de 1993 à 1998 à l'Académie des sciences. Le système nucléaire qu'il conviendrait de créer contiendrait tant de corps radioactifs aux multiples risques potentiels qu'il faudrait le protéger, le garder comme une citadelle militaire, y compris du dessus. Astrid constitue en fait un alibi pour l'industrie atomique. La perspective d'un recyclage futur du combustible usé du plutonium fournit une formidable caution pour continuer de faire tourner les centrales sans se soucier des déchets radioactifs qu'elles produisent.
Voilà. Ça fait toujours penser aux cités HLM où plus on met de noms de fleurs, moins il y a d'arbres. Là, on nous met des jolis prénoms pour des choses qui sont vraiment pas très très belles.
Ben, voilà.
Merci beaucoup. Et bien maintenant, notre agenda concocté par Pierrick.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Pierrick pour la présentation de l'agenda. À vos tablettes. Mardi 10 juin 2014, à 20h, au cinéma Le Navire à Valence, projection du film Uranium, héritage empoisonné, suivi d'un débat en présence de la CRIRAD et de l'association Agirinman. C'est une association nigérienne de protection de l'environnement qui sensibilisera tous les présents aux dégâts que cause le nucléaire sur les lieux d'extraction. Si le thème de l'émission du jour vous a plu et que vous souhaitez avoir plus d'informations, ou que vous souhaitez discuter avec les acteurs du projet, rendez-vous jeudi 12 juin 2014 à 20h30 au cinéma L'Éden à Cré. Une soirée débat est organisée sur la production d'électricité citoyenne et collective. Vous pourrez y retrouver les représentants de la centrale villageoise Jarvan Rai. N'hésitez pas, vous savez que c'est très intéressant. Enercop organise à nouveau une formation Dr. Watt dans la Drôme, cette fois-ci sur Cré. La première partie aura lieu le 18 juin, la seconde partie le 17 septembre. L'objectif, c'est de réaliser un autodiagnostic sur les consommations électriques de l'habitat et de mettre en œuvre des actions pour justement réduire cette consommation. Vous pouvez avoir plus de renseignements et vous inscrire à l'adresse suivante dr-watt@enercop-rhône-alpes-au-pluriel.fr. C'est le tiret du 6. Le prix de la formation, c'est 49 euros et vous pouvez vous rembourser avec les économies réalisées sur vos consommations. Lundi 30 juin 2014, réunion mensuelle de l'association Sortir du nucléaire en Drôme Ardèche à 18h30 au local de la Frappna Drôme, 44 avenue de Verdun, à Valence. Comme d'habitude, c'est le quatrième lundi du mois. Retrouvez toutes nos activités sur le site de l'association sdn26-07.org. N'hésitez pas, c'est riche et fort intéressant pour creuser la réflexion. Et toujours chaque samedi matin, de 11h à 12h30, vous pouvez nous rencontrer, place Porte-Neuve à Valence. Nous ferons une présentation, comme à l'habitude, de la carte des zones d'exclusion en cas d'accident nucléaire en Rhône-Alpes. C'est assez édifiant. Encore une fois, vous pouvez participer à l'action « Tous les dimanches dire non au nucléaire ». Rendez-vous à 12h devant votre mairie. Vous trouverez plus d'informations sur notre agenda et sur le blog de sdn26-07.org. Pardon. La prochaine émission Atomic Mac aura lieu le lundi 7 juillet à 12h15. Et je vous dis à bientôt.
Et vous pouvez nous contacter sur notre répondeur. Alors je rappelle le numéro du répondeur, le 08 05 69 67 58. Nous vous ferons des réponses, soit directement dans l'émission, soit par email ou par téléphone en vous rappelant. Cette émission a été concoctée par Céline, notre technicienne, Pierrick, bien sûr, pour l'agenda. Jeanne, Georges et Dominique pour les billets et Dominique pour la présentation. On vous souhaite une bonne journée et je vous laisse avec Jimi Hendrix. Thank you.